Alors, je vais faire une petite introduction et déjà mettre, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est le revenu de base. Alors, effectivement, ça a plusieurs appellations. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le revenu de base, c'est un revenu donné à vie de la naissance à la mort, individuellement, comme tout citoyen, homme, femme, et sans aucune condition. Il est inconditionnel. On n'a pas besoin de prouver qu'on est pauvre, et même si on est riche, on le touche. C'est un revenu pour tous, la naissance à la mort. Alors, pourquoi on l'appelle revenu de base à l'heure actuelle, qui a un nom qui est peut-être en français un peu, qui sonne un peu bizarrement. Il s'est appelé allocation universelle, revenu d'existence, allocation d'existence, revenu de vie. Et depuis maintenant 2 ans, il y a un gros mouvement européen qui est parti, notamment à travers une ICE, une initiative citoyenne européenne qui s'est terminée le 14 janvier 2014. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est tout nouveau en Europe. C'est un outil de démocratie directe, comme ils ont en Suisse. C'est-à-dire que s'il y a 1 million d'Européens qui signent une pétition, alors c'est comme une votation citoyenne, avec 7 pays membres qui ont au moins les quotas, l'Europe est obligée, le Parlement européen est obligé de se pencher sur la question et d'étudier. Donc nous, on a lancé ça et on a demandé à ce que l'Europe étudie le revenu de base. C'est ça.
Pourquoi revenu de base,
hein. Justement, oui. Et donc, au niveau européen, en anglais, on dit basic income, en allemand, on dit Grundeinkommen, en espagnol, on dit renta basica. Donc, c'est toujours avec le base. Donc, en français, on a pris cette dénomination revenu de base suite à ça. Et pour finir sur cette initiative qui est maintenant terminée, on a eu pas loin de 300 000 signatures. Mais ça a créé un énorme mouvement qui vient de naître, là, un gros mouvement européen, et ça a mobilisé les 27 pays. Donc c'est énorme, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de partir au sujet du revenu de base, surtout un mouvement citoyen. Ça sort du milieu universitaire dans lequel c'était quand même jusqu'à présent cantonné. Voilà. Alors par contre, il y a quelques appellations que j'ai retenues, comme salaire à vie ou revenu citoyen. Donc le salaire à vie, c'est Bernard Friot, et le revenu citoyen, c'est VIPA. Et ce n'est pas un revenu de base. Ça ne rentre pas dedans parce que ça ne rentre pas dans la définition d'inconditionnalité de la naissance à la mort. Bernard Friot, c'est à partir de 18 ans. Il y a 4 salaires différents, voilà. Donc rien à voir. Et le revenu citoyen de Villepin, c'est un revenu conditionné. Pour les gens qui sont moins de 1500 euros, pour que tout le monde ait 1500 euros, mais donné qu'à ceux qui touchent un revenu inférieur à 1500 euros. Donc c'est absolument pas un revenu de base. Et on sort complètement de l'idée de l'inconditionnalité, et ça on y tient vraiment, même si le revenu de base est traversé par d'énormes courants politiques, associatifs. Effectivement, ça peut aller de la droite à la gauche, des mouvements écologistes, aux décroissants, etc. Ça, c'est absolument non partisan. Et alors, c'est une vieille idée. On pourrait penser que c'est tout récent, mais c'est une très vieille idée. Ça a démarré avec Thomas More et Utopia. Je crois que vous devez connaître, je vous dis, on parle. Bon. Ça, c'est au 16e. Et ensuite, Thomas Paine, au 18e siècle. Et là, on peut dire que c'est vraiment l'origine. Thomas Paine, c'était un Anglais. Qui est parti aux États-Unis et qui a participé à la Révolution française et qui a été député dans le Nord à Lille en 1793-94. Et quand il était aux États-Unis, il s'est rendu compte, il a vu pour la première fois les Indiens, les tribus indiennes, et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de propriété. La terre appartenait à tout le monde. Et il s'est dit, l'injustice dans notre civilisation occidentale, enfin européenne, c'est que la terre est privée, propriétaire, il y a des propriétaires terriens. Donc à partir du moment où la terre est privée, on enlève à ceux qui n'ont pas les moyens, et les moyens de vivre. Soit de pouvoir faire des potagers, soit de pouvoir habiter, loger. On prive les gens de quelque chose qui doit être universel et à tous. Et il a écrit un petit bouquin qu'on trouve à la bibliothèque Gallica, sur Internet, c'est Bibliothèque Gallica, c'est la Bibliothèque de France qui fait ça, Bibliothèque nationale de France. Vous trouvez plein de livres numérisés anciens. Alors des fois qu'on trouve chez des bouquinistes, mais très très cher, mais vous pouvez télécharger le livre écrit comme à l'époque. Et vous trouvez ce petit livre qui s'appelle « De la justice agraire » de Thomas Paine. Ça fait 30-35 pages, où il préconise, donc, alors il n'appelle pas ça un revenu de base, hein, de la justice agraire, il préconise un revenu en argent déjà, redistribué à tout le monde, sans condition, et il avait calculé pour Paris. Assez étonnant, il y a, à la fin, il y a un petit calcul, il avait calculé pour les Parisiens combien on pouvait donner à chaque personne. Ensuite, on retrouve l'idée des revenus de base au 19e dans tous les mouvements d'émancipation, donc c'est Charles Fourier, et puis chez d'autres, mais très ponctuel comme ça. Et c'est ressorti au 20e siècle, ensuite, dans les années 60-70, chez les universitaires et des économistes, surtout. Alors, je ne vais pas vous citer la liste des économistes, mais surtout, récemment, vraiment, on peut dire que c'est les années 80-90, où là, ça y est, il y a un mouvement qui est parti. Et pas qu'un mouvement français, mais international. Il y a une association, fondation qui s'appelle Le Bien, Basic Income Earth Network, donc le réseau international du revenu de base, enfin de la Terre, si on peut dire, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc il y a des chercheurs, universitaires, économistes dans plein de pays qui planchent sur comment le mettre en place, comment en parler. Et c'est très récemment que ça sort de ce domaine un peu cantonné, économiste universitaire, et que des citoyens... Il y a quelque chose qui... ça va mieux. Et voilà, donc très récemment, depuis, on va dire, 5 ans, quoi. Les citoyens prennent en main cette idée et essaient de la propager. Un petit peu plus en Allemagne, ça a commencé vers 2005 en Allemagne, et les Allemands ont été les précurseurs en Europe pour propager l'idée. Alors il y a la Suisse aussi, qui a suivi étonnamment, peut-être vous avez entendu parler de ça. Alors, donc en Suisse, ils ont un outil aussi de démocratie directe, avec des référendums d'initiative populaire. Et là, donc en Suisse, il faut qu'ils aient 100 000 signatures. Citoyens pour que ça passe, une idée ou une proposition passe en référendum. Et un mouvement de citoyens qui est né sur le revenu de base, et ils ont obtenu 130 000 signatures, donc plus que ce qu'il ne fallait. Alors ça ne s'est pas fait tout seul, hein. ils se sont activés, ils ont bougé, ils ont fait des marchés, des conférences, et comme ils ont l'habitude en Suisse de ce mode de participation citoyenne, les journaux en ont parlé, les télés... surtout, alors, quand ils ont eu 130 000 signatures, après ils ont signé à Berne, ils ont fait venir un camion de pièces en centimes d'euros qu'ils ont déversé, des tonnes de centimes d'euros qu'ils ont déversé sur une grande place, là, pour signer le truc officiel. Et là, toutes les télés en ont parlé, et donc ça fait un petit peu boule de neige sur quelques télés en France. Donc, on a entendu parler un peu du revenu de base chez TADI. Un tout petit peu sur Arte, Le Monde diplomatique qui avait fait au printemps dernier quand même 4 pages sur le revenu de base, mais voilà, ça reste encore cantonné, encore des petits comités. Alors ensuite, évidemment, ça pose question, qu'est-ce qui bloque avec ce revenu de base? Pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi les politiques n'en parlent pas? Parce qu'ils ont tous... plus ou moins dans leur carton. Ces universitaires économistes qui ont travaillé à la base, on en parlera après dans le débat certainement, hein, ont fait ce qu'on appelle du lobbying politique. Donc, pas mal de partis, que ce soit l'UMP, le PS, l'Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, etc., tous connaissent ce concept. Attac, vous voyez aussi, tous le connaissent. Mais ils n'en parlent pas. Aucun responsable ne veut... s'engager à parler de ça. Alors pourquoi? Ben, parce que ça bloque, que ça demande une réflexion, une pédagogie. Vous avez intitulé « Un revenu sans travail, est-ce possible ?» Voilà. Donc tout de suite, on est là, sans travail. Et ce n'est pas un revenu sans travail, c'est un revenu dissocié du travail rémunéré, en fait. C'est-à-dire, c'est un revenu pour enfin pouvoir s'activer, travailler vraiment, quoi. Différemment, en fait. complètement. C'est un vrai changement de paradigme. Et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler pour des politiques, parce que c'est pas électoral, puisqu'il faut du temps, comme on pourra prendre du temps ce soir pour en débattre. Ça se fait pas tout seul, quoi. On comprend pas tout de suite comment c'est possible ce truc-là, ça fait trop utopie. Et il y a d'autres blocages aussi, si tu veux en parler un petit peu.
Oui, je sais pas, ou peut-être un débat.
Après, un débat.
Je sais pas, comme... Ouais. Parce que là, ça fait rentrer dans le débat, hein, ce que je veux dire.
Bon, alors on en parlera dans le débat. Pourquoi, effectivement, étonnamment, il y a beaucoup plus de blocages, si on peut dire, à gauche que à droite. Voilà. Étonnamment. Parce que la valeur travail, c'est quelque chose, travailleur, travailleuse, la défense du travailleur, la défense du salarié, etc. Donc se dire tout d'un coup comme ça, on donne un revenu sans travailler, mais qu'est-ce que va devenir le travail? Et là, ça bouleverse, ça bouleverse trop des siècles et des siècles. Il faut gagner la sueur, son pain à la sueur de son front. Alors, il faut souffrir. Tripalium, le travail, ça vient de tripalium. Voilà. Et donc on doit souffrir pour pouvoir vivre. Voilà.
Faire vivre, on n'a pas froid.
Aussi. Aussi. Ouais. Et ensuite, évidemment, donc ça c'est la grande peur, bon, on va en parler, hein, toute cette notion de travail tout à l'heure aussi. Et puis après, même si ça interpelle, on dit mais on voit bien, on est en pleine crise, multiples crises, où c'est qu'on va trouver cet argent, quoi. Voilà. Ça, c'est la grande question, mais comment on va financer, hein, comment on va en financer ça? Et plein de gens disent bon, c'est pas possible, hein, donc c'est une utopie. Eh bien si c'est possible, parce que donc il y a plein d'économistes qui ont planché dessus, et pas des moindres, et il n'y a pas de souci, on finance sur le revenu de base, mais alors avec plein de méthodes diverses et variées. Et c'est à nous, citoyens, à force d'en parler, de plancher aussi un peu dessus, de se dire après, ben, quelle méthode on va choisir? Parce que selon les méthodes qu'on va choisir, ça va influencer aussi peut-être l'entourage du revenu de base, hein, enfin, de dire une certaine philosophie, de ce qu'on a envie de comme société. Voilà. Mais voilà, y a plein de solutions. Alors, je vais vous parler des principales, hein, mais alors selon les pays aussi, y en a vraiment. Je vais vous parler mettons de 6-7 propositions, mais il y en a plus que ça encore. Alors en France, on a Marc de Basquiat qui a fait une thèse où lui, il a calculé, il a mis 3-4 ans pour faire ça quand même. Il a calculé tout ce qu'on donne actuellement par les allocations familiales. Et il s'est dit comment on pourrait répartir ça différemment, en fait. Et il s'est rendu compte que actuellement, en France, pour tous les Français, il y a de disponibles 400 euros par mois et 200 euros pour les mineurs. Sans toucher ni au chômage, ni à l'allocation logement, ni aux retraites. C'est juste la CAF, quoi. Cet argent est là, disponible. Et donc c'est une redistribution différente, et quand même il prend 1% sur le patrimoine. À tout le monde. Mais ça ne fait pas d'imposition supplémentaire. C'est déjà comme ça. Il n'y a pas d'imposition, aucune imposition supplémentaire. Ensuite, il y a dans les mouvements écologistes, on se dit c'est intéressant de trouver un financement du revenu de base qui nous amène à la transition écologique, puisque crise financière, crise écologique, actuellement, on a une multitude de crises, hein, donc il faut trouver des solutions pour en sortir. Et pour aider la transition écologique avec le revenu de base, il peut y avoir des prélèvements par la TVA sur les produits qui polluent, les produits nocifs polluants, par exemple. Donc des TVA assez élevés sur les produits nocifs pour la planète, même des pourcentages de prix sur les marchés carbone. Actuellement, il y a des marchés carbone et d'autres marchés écotaxes, d'autres écotaxes, etc. Non, il y a des prélèvements possibles. Aussi, ben, la taxe Tobin, tant qu'on y est, on en parle depuis des années, elle n'a toujours pas eu lieu. Alors, c'est en cours, la taxe Tobin. Il y a 11 pays qui la demandent. Curieusement, c'est Angela Merkel qui est fer de lance pour la taxe Tobin, qui la désire. Et curieusement, c'est Moscovici qui freine la France. Bon. Ça, c'est assez curieux. Et voilà, donc là aussi, un petit pourcentage sur toutes ces transactions financières, ça fait pas mal d'argent. Ensuite, on peut aussi financer avec une petite partie, en tout cas, pas complète, mais un petit pourcentage, avec des monnaies complémentaires. Est-ce que vous avez des monnaies complémentaires, vous, ici, dans l'Aveyron? Non? Parce que ça se fait de plus en plus, plein de petites villes mettent en place des monnaies complémentaires.
Sel?
Bon, le sel, c'est un bon exemple, mais par exemple, à Toulouse, on a le sol violette.
Oui,
voilà.
Le sel, on a
assez. Ah, le sel aussi, avec des billets imprimés aussi que vous pouvez changer avec les autres. Ah non, non, c'est le sel, le système d'échange local. Oui. Ça, c'est le plus ancien. Voilà.
Mais la violette, ça, c'est pareil.
Voilà. C'est un peu différent. C'est différent. Voilà. Mais le sel fait partie du système aussi. Si le sel est plus généralisé, ça permet aussi d'avoir moins de monnaie, d'avoir besoin de moins de monnaie, parce qu'il n'y a pas de monnaie là en fait. C'est un échange de temps, le temps de service. Voilà. Tandis que les monnaies complémentaires, ce sont des monnaies. On peut les acheter chez les commerçants. Donc une petite partie aussi en revenu de base pour en monnaie complémentaire locale permet pour tout ce qu'on a besoin de relocaliser, les produits locaux en nourriture, etc. Ça peut être intéressant. Certains des croissants prônent aussi une grande partie en gratuité, donc des biens communs. Une partie l'eau, les besoins de base, l'électricité, chauffage, etc. La gratuité. Donc si on n'a plus besoin de les payer, ça peut être diminué du revenu de base. Et ensuite, certains pensent, alors à l'Europe, il y a Philippe Van Parijs qui pense à un euro-dividende, donc une sorte de création monétaire qu'on redispatcherait sur tous les habitants d'Europe. En France, on a un économiste, alors lui, qui a inventé une association il y a déjà plus de 20 ans, qui s'appelle, l'association de Yolande Bresson. Pour l'instauration du revenu, un revenu d'existence, c'était ça. L'association pour l'air, l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Lui, c'est un économiste, doyen de Paris 10, et il a écrit d'ailleurs un bouquin, je ne sais pas si vous n'avez pas eu, le Clément Économie, il est épuisé, je crois. Très bon bouquin. Et, c'est tout épuisé. Et petit à petit, sa pensée a évolué, et là, il est en train de dire qu'on pourrait créer des euro-francs. C'est-à-dire garder l'euro pour les échanges européens et après que chaque pays pourrait faire un euro-marque, un euro-peseta, un euro-franc qui servirait pour le revenu de base, alors la création monétaire. Il avait déjà pensé à la création monétaire, mais basée sur l'argent de dette, c'est-à-dire un argent qu'on prêterait aux États en rente perpétuelle. La rente perpétuelle, ça existe déjà, c'est-à-dire que les banques peuvent prêter de l'argent à l'État qui ne rembourse que l'intérêt, mais pas la somme. Voilà, la somme n'est jamais remboursée. Donc, là, il avait pensé à ça, mais là, il est en train d'un peu l'abandonner et de passer aux euro-francs. Et ensuite, il y a carrément passé en création monétaire totale. Alors là, on n'est plus dans le financement, c'est une création monétaire pour le revenu de base. Je vais en dire deux mots, puis on en reparlera peut-être
oui.
après.
Oui, c'est important, parce que, ouais. En fait, là, je te dis un truc assez important, c'est la notion de niveau suffisant, d'un revenu suffisant. Revenu suffisant, c'est aujourd'hui, hein, donc revenu de base inconditionnel et suffisant. Qu'est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? C'est au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, parce qu'il y en a qui disent oui, 200 euros par mois, c'est pas assez, le RSA c'est 480, on sait que c'est pas assez. En effet, aujourd'hui, le seuil de pauvreté en France c'est de 950 euros. Il faut savoir qu'à Toulouse, il y a 20%, le taux de pauvreté de 20%, c'est-à-dire il y a un Toulousain sur 5 qui est en dessous du seuil de pauvreté, qui gagne donc. Qui a pour vivre moins de 950 euros par mois. Donc il faut que ce revenu de base soit au-dessus. Hein, donc ben, 1000 euros, ça fait en plus, c'est un chiffre rond, c'est sympa. Donc 1000 euros, on sait que si par contre on donne 2000 euros, économiquement c'est pas tenable au niveau inflationniste tout simplement. Donc en donnant juste le revenu suffisant, donc 1000 euros, on répond à un revenu de base universel, individuel, inconditionnel et suffisant. Alors là, elle vient de citer, on va dire, une demi-douzaine de méthodes de financement, c'est-à-dire de prendre l'argent quelque part pour le redistribuer à chacun. Ça s'appelle un financement, on prélève pour redistribuer. Et il existe une septième, on va dire, alors c'est pas un financement, on appelle ça une modalité de distribution, qui est une modalité de distribution par la création monétaire. C'est-à-dire qu'il faut, le revenu de base, créer l'argent. Alors, comment il faut, pour comprendre cette notion de que le revenu de base crée l'argent, il faut d'abord se poser la question sur comment aujourd'hui est créé l'argent. Est-ce que vous savez comment il est créé l'argent?
Il n'y en a pas d'argent effectif.
Non, non, il existerait bien. Oh. Ça, je vous ai fait passer un euro à un sol violette, il existe vraiment, hein, c'est le mien. Non, non l'argent existe, il est créé uniquement, par une autre façon, le crédit. C'est quand on fait un crédit à la banque que l'argent est créé. Tout le reste est de l'argent circulant qui vient d'un crédit. Tout l'argent qu'on a là, tout l'argent que vous avez sur vos comptes, dans vos poches, ou dans des actions en bourse ou n'importe, c'est l'argent qui a été forcément créé par un crédit en amont. Or, un crédit, forcément, il doit être remboursé avec un intérêt. Donc tout argent créé, donc tout crédit, donc tout argent créé, demande à prélever dans la société forcément plus que ce que j'ai emprunté. Forcément, si j'emprunte 100 000, je crée 100 000 pour la masse monétaire globale, pour nous tous, finalement, que je vais diluer dans la société, mais je vais devoir rembourser ces 100 000 euros, donc les reprendre ailleurs, mais avec un intérêt. Donc je vais devoir forcément puiser, je vais forcément être dans une économie de marché, donc capitaliste, forcément, je vais devoir forcément rembourser plus que ce que j'ai obtenu. Donc, vous savez qu'on est tous capitalistes, sans même si vous êtes le meilleur communiste ou les meilleurs écolos dans votre cœur, ou dans votre intellect, vous êtes fondamentalement capitaliste à partir du moment où vous utilisez de la monnaie. Parce que vous allez devoir, sans vous en rendre compte, quelque part rembourser cet argent. En tout cas, celui qui a fait l'emprunt pour créer cet argent va forcément être obligé de puiser plus qu'il n'a reçu, donc pour rembourser avec un intérêt. Donc c'est vraiment un problème, cet argent de dette, on appelle ça l'argent de dette. Et alors la solution fondamentale, c'est justement, plutôt que de créer l'argent par le crédit, créer l'argent en revenu de base. C'est-à-dire que c'est donner 1000 euros par personne et par mois. Créé par la banque centrale, comme l'argent qu'on a quand on fait un crédit. Hein, c'est la banque centrale qui nous le donne, en fait. Bon, elles sont les banques privées, mais, voilà, mais qui dépendent de la banque centrale, c'est pareil. C'est de l'argent fourni, créé par un crédit. Alors que là, ce serait l'argent fourni, donc créé par un revenu de base, par notre existence. Ça ferait que cet argent, ce revenu de base, donc ça pourrait être l'euro, hein, aurait enfin une odeur humaine. C'est-à-dire que l'argent serait chaque mois lié à mon existence, de ma vie, de ma naissance à ma mort. Ce qui change radicalement les choses. C'est-à-dire que l'argent deviendrait enfin humain, quelque part, enfin avoir une odeur humaine. Alors qu'aujourd'hui, l'argent n'a qu'une odeur de comment on appelle ça, d'économie de marché. C'est-à-dire que l'argent a besoin forcément d'être, vu qu'il a été créé, d'être remboursé avec emprunt, avec intérêt. Donc l'argent aujourd'hui n'a pas d'odeur humaine, il a une odeur, on va dire, capitaliste. C'est comme ça qu'il faut le dire, ou d'économie de marché. Donc cette notion de revenu de base en création monétaire est très bien expliquée donc, dans le livre de Gérard Fouché. Gérard Fouché, vous tapez Gérard Fouché sur Internet, il fait alors de tout un blog, des vidéos qui sont très chouettes, qui s'appellent
Les shows. Ah,
voilà.
Quelqu'un qui connaît. Voilà. Ben, nous avons fait venir à Castres, voilà.
C'est quelqu'un de voilà, qui est très utile pour.
Fait voilà. Une très belle conférence.
Oui.
D'ailleurs, je l'ai proposé.
Ah oui, il faut que vous le fassiez venir.
D'accord.
Il est venu à Toulouse. C'est d'ailleurs pour sa venue qu'on a fait un peu ça.
Et ensuite, vous avez aussi le livre là, qui explique. Là, c'est le plus gros livre, mais qui est très intéressant, La dette, 5000 ans d'histoire. Denis Graeber, c'est un anthropologue, mais qui est à l'origine d'Occupy Wall Street. Et là, il a fait un travail étonnant, il est remonté dans 5000 ans en arrière. Et bon, je ne vais pas tout vous expliquer, mais enfin, grosso modo, la dette, c'est l'esclavage, quoi, voilà. C'est un gros résumé, mais voilà. Mais là, c'est passionnant, si vous voulez vous renseigner sur la monnaie, comment elle a été créée, les pièces de monnaie, etc. Tous les échanges monétaires depuis 5000 ans. Passionnant.
Il y a autre chose, un film qui est... sur ouais. La dette, qui passe ce soir Utopia à Toulouse, hein, qui est très bien. Là aussi, vous pouvez faire venir les réalisateurs, c'est un groupe de jeunes réalisateurs, qui s'appelle La dette, d'un film de Sophie, enfin bon, Mitrani et Nicolas Hübelmann, et qui est très bien sur les constats hein, de cette dette. Et ils sont en train de travailler sur un film, justement, sur les propositions, avec évidemment le revenu de base.
Parce que quand on se rend compte de ça, donc la création monétaire qui va pas bien, qui va pas du tout, là, c'est comme ça que certains ont planché pour une monnaie. Alors, elle s'appelle dividende universel. Stéphane Laborde qui a théorisé, il a fait un truc qui s'appelle, qui est ardu à lire, théorie relative de la monnaie 2.0. Et il appelle ça un dividende universel. Donc, c'est de la monnaie revenue de base. Alors, vous voyez, il y a plein de possibilités pour le financer. Il y en a encore d'autres. Hein. Voilà. Le financement, c'est pas un problème. Après, ça va être un choix. Il va falloir qu'on se mette d'accord au moment où ça va se mettre en place. Mais comment on le finance? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas mixer aussi plusieurs propositions? Parce que des fois, c'est compliqué d'avoir trop d'argent avec une seule proposition. Donc prendre 100 euros là, 100 euros par citoyen avec la taxe Tobin, mettons 200 euros là. Enfin, voir comment on peut mixer pour arriver à un revenu suffisant et digne. Parce qu'on est bien d'accord que si le revenu est insuffisant, ça ne permettra pas de changer de société. Parce que le revenu de base qu'on espère tous, si on se dissocie comme ça de cette obligation de travailler dans des choses qui sont des fois des travaux inutiles, pénibles, ou qui ne nous permettent pas de penser d'avoir le temps de faire d'autres choses, ça ne changera rien, quoi. Dans 400 euros, on sait bien que ça ne va pas être suffisant. Mais c'est déjà un pied. C'est ce que disent certains, même si ce n'est pas suffisant, ça permet déjà à des personnes qui sont au RSA, là, où c'est 400 et quelques euros, il faut savoir que ces personnes-là sont quand même... Déjà, c'est un revenu qui est par foyer, ce n'est pas individuel, hein, le RSA actuellement, c'est un foyer. Et ce n'est pas gros, parce que quand c'est un foyer, c'est à 600, hein, on est carrément pas mal. Il y a des contrôles énormes. Tous les 3 mois, les gens sont obligés d'aller pleurer et de montrer qu'ils sont bien pauvres. C'est très compliqué, quoi, ce système-là. Donc il y a plein de gens qui préfèrent même pas y avoir affaire, et donc il paraît, je ne sais plus le pourcentage, il y a énormément d'argent qui n'est pas perçu. Alors, les gens ont droit au RSA, mais ils ne le réclament même pas tellement c'est compliqué. Quoi.
Hein? Par rapport à la budgétisation, c'est vrai que c'est bien moindre que ce qui était budgétisé.
Bien sûr. Ouais. Et ce coût du contrôle, il est énorme aussi. Certains parlent de presque 200 euros pour 400 euros, quoi. Un coût de contrôle. C'est énorme. Parce que dans les CAF, je ne sais pas si vous voyez le personnel. Hein, alors avec un revenu de base, c'est vrai, on peut dire qu'ils vont être sacrifiés. S'il n'y a plus le CAF, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils réfléchissent, c'est peut-être faire un métier qu'ils ont envie de faire, autre chose. Quoi. C'est la question qu'on pose des fois. Mais qu'est-ce que vont devenir les gens de la CAF? Bonne question. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Hein. Parce qu'une petite CAF comme ça, chez Canardèche, ils étaient déjà... 200 employés que pour l'Ardèche, par exemple. Vous voyez, c'est énorme, hein, c'est, on ne se rend pas compte. Mais... Et donc certains disent 400 euros, c'est déjà un pas, on pourrait commencer à le mettre comme ça en place et petit à petit l'augmenter.
Pour qu'il soit suffisant.
Pour qu'il soit suffisant. Parce que certains, et moi aussi je le vois comme ça, comme un nouveau droit citoyen qu'on devrait inscrire dans la Constitution. C'est-à-dire. Dans la Constitution, on ne peut laisser personne sur le carreau. Tout le monde a droit à une vie digne. Et c'est déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on le trouve, enfin, ça je vais vous le dire, mais l'article 25, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, veuvage, vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Voilà. Donc c'est déjà dans la Déclaration universelle des droits humains. Non, c'est pas dans la Constitution. À savoir qu'au Brésil, il y a un sénateur qui s'appelle Duplessis qui a réussi à mettre le revenu de base dans la Constitution. Vers les années 2000. Mais c'est pas mis en application. Ils ont la bourse familiale pour le moment qui est sous condition. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent aux familles à condition que les enfants soient mis à l'école. Alors lui, il se bataille là-bas pour mettre en place ça. Ils font des petits livrets, ils n'arrêtent pas. Hein. Aussi au Brésil, ça bouge pas mal à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas encore. À savoir qu'il y a des expérimentations aussi qui ont eu lieu, notamment en Namibie, dans un petit village de 2000 habitants. Alors au départ, ça a été fait en concertation avec des financements de privés et l'État de Namibie, comme une expérience. Et alors là, il y a quelques conditions, je ne sais plus exactement les modalités, je pense qu'il ne les donnait pas aux gens depuis plus de 60 ans, parce qu'il y avait déjà... ils ont déjà un petit pécule donné par l'État après 60 ans, donc c'était donné aux gens avant 60 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce village où les gens crevaient la dalle, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, etc. Priorité, se soigner, manger à sa faim. Les familles qui envoient les enfants à l'école sans obligation, parce que là c'était vraiment un revenu inconditionnel, vous faites ce que vous voulez de cet argent. Et savoir qu'en Namibie, c'est le système anglais, donc il faut payer l'uniforme, c'est payant, etc. Priorité. Donc, les gens ne sont pas débiles, premièrement, les enfants. On assure la sécurité. La criminalité a baissé. Et puis les petits commerces ont fleuri. Toute l'économie est repartie. Voilà. Alors les petits commerces, hein, ils ont refait des vraies cases en dur, alors qu'il y avait aussi une insalubrité. Tout a été resplendissant. Voilà. Et autre chose de spécial, c'est-à-dire qu'il y a le FMI, la Banque mondiale, qui sont toujours, qui font des microcrédits, qui sont là pour endetter tous ces pays, n'est-ce pas ? Alors j'endette, on dit en plein là. Et ben on suivit ça de près, on regardait d'un mauvais œil, et on dit attention, si vous généralisez ça à la Namibie, parce que vous voulez que ça se généralise dans d'autres villages, etc., on vous lâche. On lâche. Donc le gouvernement namibien recule, ils ont tout arrêté. Et ça continue avec des fonds privés. Là, il y a un pasteur allemand qui avec. Ça continue à fonds privés, mais ça a beaucoup de mal. On peut d'ailleurs donner si on veut. Voilà. Il y a une autre expérimentation en cours, alors là, qui est en train de partir en boule de neige, c'est en Inde, dans la région de Delhi. Et là, ce sont des femmes qui sont dans un syndicat de femmes chefs d'entreprise, le CIWA, qui ont mis ça en place. Ça a commencé il y a 2 ans, l'expérimentation, avec Guy Standing, qui est un Anglais, coprésident actuellement du BIEN, le Basic Income Earth Network. Et eux, ils ont planché, si vous voulez, dans pas mal de villages d'Inde aussi, pareil. Les gens n'ont pas suffisamment à manger. Et il y a des programmes de subsistance food, comme ils appellent, c'est-à-dire que c'est des camions qui partent et pour amener la nourriture aux gens qui en manquent. C'est l'État, hein, l'État de Delhi qui prend ça en charge. Corruption, la moitié n'arrive pas, la nourriture n'arrive jamais. Donc ils ont utilisé ça pour parler avec le gouverneur qui a dit « Ok, on se lance dans cette expérimentation. Regardez, la nourriture n'arrive pas à bon port, pourquoi on leur donnerait pas de l'argent ?» Et ils en feront ce qu'ils veulent. Voilà, un revenu. Alors, évidemment, dans ces expérimentations, il y a toujours des conditionnalités. C'est pas totalement inconditionnel, parce que c'est difficile. Et là, ils ont mis une condition, que les personnes soient nées dans les villages où c'est expérimenté. Sinon, ils avaient peur d'une ruée généralisée de malheureux d'autres villages qui arrivent. Voilà. Donc, ils ont mis cette condition. Et ça fait boule de neige dans des villages de 2, 3 000, 4 000 habitants. Et là, je crois que maintenant, il y a une dizaine, quinzaine de villages qui sont dans l'expérimentation. Et pareil qu'en Namibie, les mêmes effets. École, la criminalité qui baisse, les petits commerces, voilà, et les gens épanouis, heureux. Il y a eu un premier petit film de 15 minutes qu'on trouve sur Internet. Premier rapport, si vous voulez, l'année dernière. Mais là, maintenant, au bout de 2 ans, l'expérience est suivie de très très près. Et là, au mois de mai, va sortir un petit film avec... voilà, on va voir tous les résultats de cette expérimentation. En sachant déjà que ça se passe très bien. Et les gens, donc, c'est pas parce qu'ils ont un revenu déconnecté du travail que justement ils ne travaillent pas, au contraire. Voilà, c'est vraiment un revenu pour travailler. Alors c'est plutôt enthousiasmant, moi je trouve, comme idée, parce qu'actuellement on est tous plombés, là, on ne sait plus quoi faire avec toutes ces crises. Et le revenu de base, c'est pas un miracle, hein, mais c'est un petit outil assez simple finalement, qui met quelque chose dans les rouages qui vont plus, là, tout est grippé, pour faire repartir, mais différemment, quoi, voilà, pour changer de système. Et après, il faut avoir confiance aux citoyens pour changer de direction, hein, il y a déjà une direction plus respectueuse de la vie et de la nature, hein, et de nous-mêmes. Voilà. Voilà, alors je sais pas si on a fait les 30 minutes... comme vous voulez.
Un peu de temps encore.
Voilà, après on peut. Parce qu'après, ce qui est prévu, c'est qu'on aille boire un verre et le débat, on le fait après. Après, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez.
Si, vas-y. Juste comme ça, ça nous fera réfléchir peut-être pour aussi pour le débat. En fait, on n'en a pas parlé là parce que c'est une découverte assez récente quand même. Le revenu de base a existé 400 ans avant Jésus-Christ, faut savoir. Il a existé pendant presque 200 ans. C'est Périclès, c'est ceux qui ont inventé la démocratie, alors pas celle qu'on a aujourd'hui évidemment, la vraie, hein, parce qu'aujourd'hui c'est pas une vraie démocratie, la vraie démocratie qui a été inventée donc à l'époque athénienne, il y avait le tirage au sort, hein, il n'y avait pas le suffrage universel, il y avait le tirage au sort inventé par Périclès, et avec le tirage au sort, justement, sachant que le tirage au sort de personnes
devait être, allait mettre au pouvoir des gens qui étaient tirés au sort, il fallait que ces gens-là soient au minimum avisés de la situation politique et sociale d'Athènes. Et donc Périclès a décidé, c'était naturel, à partir du moment où il y avait un tirage au sort, et de donner un revenu à chacun, donc de 3 oboles par jour à l'époque, qui était juste suffisant, un peu comme donc le revenu de base aujourd'hui, qui permettait aux gens qui... Alors évidemment, c'était que des hommes, ni des esclaves, qui avaient le droit donc d'être tirés au sort, et avaient droit donc à ce revenu de base, 3 oboles par jour, qui leur permettait de ne pas avoir à travailler pour survivre, et donc s'occuper du domaine politique public. Mais évidemment, après, s'ils travaillaient, s'ils faisaient du commerce, ils gagnaient plus. Mais voilà, le revenu de base a existé, de 480 ans, à 300 ans avant Jésus-Christ. Et le tirage au sort aussi. Et les deux choses ont disparu. On se retrouve là en 2014 avec ces deux thématiques qui sont sacrément bien, qui s'articulent très bien, le revenu de base et le tirage au sort. Je pense que vous êtes là aussi. On parlait de Gérard Fouché. Je pense qu'il y a une autre personne que vous pourriez faire venir. C'est Étienne Chouard qui fait un très bon travail sur justement le tirage au sort. Et donc voilà, c'est pour cette histoire de revenu de base qui a existé donc, il y a très longtemps, comme par hasard lié avec la démocratie, il faudrait peut-être y réfléchir aujourd'hui.
Il est un peu controversé.
Et en Alaska, il n'y a pas eu des expériences.
Alors si, alors en Alaska, c'est pas une expérience, ça existe depuis plus de 20 ans, je crois maintenant. C'est un revenu pétrolier sur les sources. Alors Bella, assez drôle, c'est surtout pour pas faire partir les gens, parce que faut y vivre en Alaska, hein, c'est dur. Et non, ils ont une rente annuelle là, qui varie, qui fluctue selon les revenus pétroliers de l'année, c'est un pourcentage. Et, alors ça peut aller entre 3 et 6 000 dollars, 7 000 dollars, ça dépend des années. Et, voilà.
Le Qatar, l'Iran, le Koweït.
Non, Finlande. Finlande, ils se sont bataillés pour le revenu de base là. Et...
Ils sont en train. Bataille, c'est pas fini.
Et est-ce que demander 400 euros, c'est justement ne pas faire le jeu de la droite qui demande 400-450 euros?
Ah bon, quand
style Boutin,
plein de pots dans le débat.
C'est ça que je pensais. Vous invite.